Les matins de France Culture.
Bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Votre vue de presse internationale avec une question tout d'abord, les mots ont-ils un sens ?
Oui, à lire la presse ce matin, on est tenté de se poser la question tant la confusion semble avoir gagné les esprits. Prenez par exemple le site de la BBC, on y apprend que le Royaume-Uni serait aujourd'hui menacé par le chaos, ni plus ni moins. Et pourquoi ? Parce que les députés britanniques doivent se prononcer ce soir sur le projet de loi gouvernementale destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen, la fameuse loi d'abrogation. En clair, il s'agit de convertir le corpus de lois européennes en loi nationale afin de garantir qu'il n'y ait pas de lacune dans la législation britannique lorsque le divorce avec l'UE sera définitivement prononcé. Eh bien, le gouvernement a d'ores et déjà prévenu, les députés qui s'opposeront à ce projet de loi voteront pour le chaos. Et que dire ? À présent, de la Norvège, officiellement désignée cette année par l'ONU, pays le plus heureux du monde. Les électeurs doivent se rendre aux urnes aujourd'hui pour déterminer qui de l'équipe de droite sortante ou de la gauche gouvernera ces quatre prochaines années. Et bien, au prétexte que les conservateurs d'un côté et les travaillistes de l'autre sont donnés au coude à coude, l'éditorialiste de la chaîne TV2, comme celui d'Aftenposten, le quotidien le plus lu du pays, juge que tout est prêt désormais pour le plus grand thriller électoral depuis de nombreuses décennies. Pourquoi ? Parce que ce scrutin à la proportionnelle devrait faire la part belle à plusieurs petits partis contestataires, mais pas les formations historiquement les plus radicales, non contrairement à ce que l'on observe dans d'autres pays européens. Ce scrutin échappe largement au spectre du populisme. Les contestataires, en l'occurrence, se résument au parti du centre, qui défend la paysannerie contre les élites urbaines, les écologistes, qui réclament la fin de toute nouvelle activité d'exploration pétrolière, et enfin, les marxistes norvégiens, qui, historiquement, ont toujours adhéré à une vision relativement positive de l'État. Et ce n'est pas non plus la Suède, ce matin, qui devrait rassurer tous les progressistes du monde entier, pour qui idéaliser ce paradis social, autant que ce havre de paix septentrionale relève presque du passe-temps. Rendez-vous compte, à partir d'aujourd'hui, la paisible campagne scandinave va prendre des airs de champ de bataille. Pendant trois longues semaines, près de la moitié de l'armée suédoise va être mobilisée aux côtés de soldats américains, français, danois, estoniens, lituaniens et finlandais. Aviation et marine seront sollicitées lors d'une attaque fictive de Stockholm et de l'île de Gotland avec la participation d'une unité blindée américaine. Au total, pas moins de 20 000 hommes et femmes vont simuler l'attaque de la Suède par un pays fictif venu de l'Est, et ce pays fictif que la diplomatie interdit de nommer n'est évidemment un secret pour personne. Voici tout simplement comment l'Occident se prépare à la guerre avec la Russie, peut-on lire sur le site BuzzFeed.
Ah bon, et quand les mots ont un sens, Thomas, toujours et encore, alors goût pour la transgression ou maladresse ?
Oui, la sortie d'Emmanuel Macron ce week-end en Grèce contre les fainéants a fait réagir les commentateurs dans la presse pour The Australian. Les manifestations prévues demain contre la réforme du droit du travail ont sans aucun doute reçu un nouvel élan après que le président a semblé suggérer que les travailleurs français qui s'y opposent sont tous des fainéants. La photo choisie par le journal Le Sydney montre Emmanuel Macron, le visage déterminé, les dents serrées, pointant un doigt accusateur. Sauf que personne en réalité n'avait saisi la subtilité de langage du chef de l'État. Les fainéants auxquels M. Macron faisait référence étaient des hommes politiques, en l'occurrence ses trois prédécesseurs qui n'ont pas réussi à réformer la France, a précisé le porte-parole du gouvernement. Manière d'insinuer donc que la France aurait institutionnalisé la paresse, probablement par le biais de sa semaine de travail de 35 heures, ses généreuses allocations chômage et son droit à la retraite à 62 ans. Alors sur ce point, l'éditorialiste du Temps, lui, semble partager la même vision. On sait ce qu'a coûté à la France l'attentisme de ses prédécesseurs, dit-il. Mais pour le reste, on ne peut que regretter cet écart de langage. Peu importe l'opération de déminage, le président français s'est montré inutilement provocateur et désobligeant, quelles que soient les conséquences, parfois néfastes, de dispositifs sociaux trop généreux ou trop faciles à détourner. Toutes les études montrent que les salariés hexagonaux sont plutôt très productifs, mais avec de tels mots, qui plus est prononcés à l'étranger. Ce turbo-président à peine quadragénaire, aux racines provinciales mais à l'itinéraire si élitiste, nuit à l'efficacité de son message et à l'indispensable pédagogie sur le besoin d'une transformation. Et l'éditorialiste d'en conclure, certes, Emmanuel Macron a raison d'agir vite, mais à la condition expresse de respecter ses adversaires et d'éviter, dans un pays miné par la défiance, le piège de l'arrogance et du manque d'empathie.
Il y a bien une solution, Thomas, quand on a du mal avec le mot juste. Le mieux, eh bien, c'est d'utiliser des images.
Oui, si vous voulez savoir à quoi ressemble aujourd'hui la Floride, battue par les vents sous des pluies diluviennes, alors regardez ces images, peut-on lire sur le site de la chaîne américaine CNN ce matin. En dépit d'une intensité déclinante, la colère de la tempête Irma, ainsi que l'écrit The Miami Herald, a frappé avec force hier l'ouest de la Floride, après avoir balayé Cuba et les Antilles, où il a fait au moins 28 morts et des dégâts considérables. Donald Trump a lui validé l'état de catastrophe majeure pour la Floride. Il y a ordonné l'envoi de l'aide fédérale. En revanche, preuve qu'il n'est pas toujours aisé de trouver les mots justes, le président de retour de son week-end à Camp David a déclaré « La mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'agit d'un grand monstre ». Enfin, eux, en revanche, Guillaume, n'ont pas eu le choix des mots. Ce sont Harvey et Irma, respectivement, 104 et 93 ans, à qui The New York Times consacre un portrait né au début du XXe siècle. Alors que la radio venait tout juste d'être inventée et que le câble n'allait voir le jour pas avant plusieurs décennies, ils se sont mariés en 1942, un siècle plus tard et après 75 ans de mariage. Ils ne peuvent rien faire d'autre aujourd'hui que regarder leurs deux prénoms apparaître sur les écrans de télévision, accompagnés de chiffres signalant le nombre de morts et les notifications de destruction et d'évacuation.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On revient là-dessus dans le journal et aussi dans les matins avec l'évolution de la notion de catastrophe. Il existe une histoire des catastrophes naturelles.